Tribu, Laurent Caspary.
Bonjour, bienvenue dans Tribu. Chut, ne le dites à personne, c'est un secret. Quoi de plus alléchant que lorsqu'on vous chuchote un vrai ou un soi-disant secret? Le sentiment d'être détenteur d'une clé qui ouvre une porte que l'on rêve de franchir parfois depuis très longtemps. Et puis les détenteurs de secrets ont peut-être le sentiment de détenir un pouvoir, une parcelle de pouvoir. L'un des hommes qui gardait le mieux les secrets, paraît-il, c'était un certain François Mitterrand, homme aux multiples secrets. Précisément, les secrets sont multiples, ils peuvent être gardés dans un cercle très fermé, très intime, secrets familiaux ou être largement partagés comme les secrets de Polichinelle. Concerner des peuples entiers comme les secrets d'État, être plus métaphysique comme le secret du bonheur. On va tenter non pas de vous révéler de secrets ce matin, désolé, mais de percer une partie de ce mystère qui est le secret et de comprendre surtout son importance au quotidien dans notre société. Bonjour Marc-Olivier Gonzette.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct dans Tribu, Marc-Olivier Gonzette. Vous êtes le directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel, le musée qui présente depuis ce printemps et jusqu'au 18 octobre prochain, encore un mois, une exposition sur ce thème, le thème du secret. Une exposition qui n'est pas directement au musée, qui est un peu éclatée dans toute la ville, c'est ça?
Oui, elle est répartie sur 15 lieux différents de la ville de Neuchâtel. Nous étions en fait dans une période normalement où la grande black box où nous développons les expositions temporaires était indisponible, ce qui n'est pas le cas, mais enfin, nous nous sommes tenus à notre calendrier, c'est-à-dire agir en ville. Et en même temps, c'était un geste qui nous permettait de nous rapprocher des citoyens de Neuchâtel, parce qu'on est un peu isolés sur notre colline. Donc, en règle générale.
Donc 15 lieux à découvrir, et puis on se balade, en fait, on va d'un lieu à l'autre, et il faut découvrir un secret.
Alors, il y a une porte d'entrée qui est soit l'office du tourisme, soit le musée lui-même. Et puis, on vous y fait signer une charte de confidentialité. Puis ensuite, vous acquérez un moyen de transport. C'est un jeu de cartes qui vous permet de passer de poste en poste pour essayer de reconstituer, en fait, notre trajet intellectuel autour du secret.
Qu'est-ce que c'est qu'un secret finalement? C'est la première question que j'ai envie de vous poser, Marc-Olivier Gonzette, parce que ça peut être plein de choses. Comment est-ce que vous le définissez? Vous définissez ce terme?
Alors, je partais plutôt de l'idée le secret. Qu'est-ce que le secret? C'est un mode de communication un peu paradoxal. C'est-à-dire, c'est un mode de communication dans lequel il y a un détenteur, une personne qui connaît une information, il peut même mettre plusieurs, et puis il la transmet à ce qu'on peut appeler des dépositaires, c'est des gens qui vont agrandir le cercle de ceux qui savent, qui vont même acquérir une certaine visibilité de cercle qui sait. Il y a des témoins autour de ce cercle qui sait, qui savent que des choses se savent, mais qui n'ont pas accès à l'information. Et puis, il y a un destinataire. Alors, c'est là que c'est paradoxal. Le destinataire, c'est théoriquement la personne qui n'est pas censée être mise au courant. Ça peut être soit un individu, soit un groupe. Et la règle veut que le secret cherche son chemin vers le destinataire.
Il y a forcément un destinataire.
Il y a toujours un destinataire, même si celui-ci n'est pas désigné. Si vous voulez, par exemple, un secret d'État, le destinataire, ce serait toutes les personnes qui ne sont pas censées entrer en communication avec lui, même si la personne n'est pas implicitement désignée. Les grands hackers et les personnes qui cherchent à entrer dans ces secrets-là le savent bien. Puisqu'en fait, ils cherchent à finalement mettre le plus grand nombre au courant de choses qui se passent de manière un peu cryptée dans les organes d'État.
Pourquoi vous avez eu envie de faire une exposition sur le secret, Marc-Olivier Gonzette, au musée d'ethnographie?
C'est parti d'un projet ambitieux. C'est une réflexion sur le patrimoine culturel immatériel qu'on a mené avec nos collègues de l'Institut d'ethnologie. Le premier volet s'appelait Bruit, donc patrimoine sonore. La constitution de ce patrimoine. Le deuxième s'appelait hors-champ. C'est une réflexion sur l'image et le fait qu'on met toujours des choses en valeur et qu'on en cache d'autres. Et puis assez naturellement, on est arrivé ensuite sur ce troisième thème qui est en fait de l'immatériel par excellence, puisqu'on n'a même plus le droit théoriquement de parler de la chose. Donc, ça nous semblait intéressant, d'autant plus qu'en fait, ces expositions nous ont amené à nous dire comment est-ce qu'on représente l'immatériel.
Oui, précisément, moi j'allais
comment
vous dire...
Comment est-ce qu'on met en scène l'immatériel.
Pour faire comprendre aux auditeurs, vous faites une exposition, alors on l'a bien compris, itinérante, enfin pas itinérante, disons en différents lieux, elle est éclatée en différents lieux de la ville de Neuchâtel, mais qu'est-ce qu'on y voit? Parce que le secret, à part peut-être quelques documents secrets, comment est-ce qu'on la représente? Comment est-ce qu'on représente ce thème?
C'est tout l'intérêt du travail de muséographie, c'est d'essayer de mettre en trois dimensions, ou en tout cas en discours, des éléments abstraits. Et c'était particulièrement intéressant cette fois, parce que non seulement, effectivement, il fallait à chaque fois essayer de représenter l'intention théorique sous-jacente, mais en plus, il fallait la mettre et la disperser dans différents lieux de la ville de Neuchâtel. Et tous ces lieux ont des propriétés particulières, avec des acteurs particuliers. Donc, si vous voulez, le processus lui-même a engagé toute une espèce d'activité autour du secret, puisqu'il y avait ceux qui étaient dedans, c'est-à-dire ceux qui nous aidaient à réaliser notre expo, et ceux qui en étaient les témoins, puis qui en sont maintenant les acteurs, c'est-à-dire les visiteurs qui ont envie d'entrer dans le jeu.
Le secret, indispensable à notre société, sans lui, qu'est-ce que ça donnerait ?
Sans lui, c'est l'horreur de la transparence absolue, c'est-à-dire que c'est pas tellement difficile de se rendre compte de ce que ce serait que d'être sans arrêt confronté à la réalité vraie. C'est quelque chose qui, vous savez très bien que la réalité et la vérité se construisent socialement, et donc qu'elle a diverses modalités, divers aspects, diverses façons d'être interprétées, et donc prétendre d'un coup qu'il n'y ait qu'une seule vision qui serait celle de la transparence absolue, serait juste ingérable socialement. On serait dans un monde effroyablement totalitaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il en va de même pour une société dont le secret absolu serait la règle. Mmh. C'est-à-dire, en fait, finalement, on se trouve avec deux extrêmes qui sont parfaitement ou presque à l'identique quand ils sont adaptés de manière absolue et sans nuance. Alors, ce qui est intéressant dans la dynamique sociale, c'est une dynamique assez ouverte entre la transparence nécessaire pour que les activités sociales puissent avoir lieu et la dose de secret suffisante pour que tout ça se passe avec des rouages huilés et que nous ne soyons pas dans une espèce de morne plaine où tout se sait et tout se dit.
Une bonne dose, une dose de secret et une dose de transparence, tout ça bien mélangé, ça donne une société viable, en tout cas intéressante. On va faire un petit peu, si vous êtes d'accord, Marc-Olivier Gonzette, un petit peu le tour de cette exposition en radio, donc c'est un peu compliqué, mais on va quand même prendre quelques points que vous abordez, essayer de comprendre un peu mieux ce secret. Alors, vous dites que le secret, c'est une modalité essentielle de la communication. Le secret engage une expérience liée à des lieux, des règles et des relations sociales. Des lieux tenus secrets, tout simplement. Par exemple, ça c'est la première chose à laquelle on pense. Il y a plein de lieux secrets.
Alors effectivement, chaque secret ou chaque dynamique de secret a ses lieux propres. Ça peut être des lieux professionnels, ça peut être des lieux de rencontre, de congrégation, ça peut être des lieux mouvants dans lesquels il s'agit justement de ne pas retourner par peur d'y être repéré. Donc le secret s'incarne très fréquemment dans un lieu. Là, en l'occurrence, nous avons placé cette première proposition à l'entrée du jeu pour que le visiteur se rende compte qu'effectivement, bien, il arrive dans un lieu précis, c'est en l'occurrence la porte d'entrée. Il a des règles particulières qui lui sont proposées. Il doit acquérir un billet, il doit s'acheter des cartes, il doit signer une charte de confidentialité. Et puis ensuite, il va découvrir d'autres lieux et rencontrer des personnes. Donc il est déjà en relation sociale avec les personnes qui l'encadrent pour lui expliquer comment ça fonctionne. Puis ensuite, il va être en relation, et c'était fréquemment le cas, avec les autres joueurs ou avec le cercle avec lequel il joue.
Des lieux de secrets, donc bien sûr, on les imagine plutôt, mais ça c'est pas forcément le cas, on les imagine souterrains, on les imagine dans des grottes.
Alors c'est très bien, imaginez-les comme ça, en fait, c'est un petit peu cette intention-là, mais des fois dans des lieux parfaitement classiques, que tout le monde connaît, fréquente, mais nous avons trouvé dans ce lieu-là une porte dérobée, ou un coin caché qui finalement, tout d'un coup, nous le fait à la fois découvrir autrement et prolonge un peu le suspense de la recherche.
Le fameux passage secret.
Voilà.
Des règles secrètes, ou qui seraient des règles d'une société secrète, par exemple, d'une secte, que sais-je, ça aussi c'est quelque chose, on peut avoir des règles secrètes.
Les règles elles-mêmes ne sont pas secrètes, si vous voulez. Elles sont simplement énoncées à l'intérieur d'une congrégation qui, elle, l'est. Et une des règles consiste à effectivement s'engager à ne pas divulguer à un public non averti les principes mêmes qui font que cette congrégation a quelque chose d'intéressant. Ce qui fait d'ailleurs, ou ce qui produit à l'extérieur un certain nombre de fantasmes, parce que le fait de ne pas avoir accès à une communauté qui partage des choses cachées vous donne une envie inextinguible de les percer et peut-être même d'arriver à être intronisé soi-même.
On a beaucoup fantasmé sur les francs-maçons, on en parle dans l'actualité tout récemment, notamment en Valais, hein, puisque le Grand Conseil s'est posé la question de savoir si les francs-maçons devaient se dire qu'ils étaient francs-maçons. Eh bien, là, c'est typiquement ça, on ne connaît pas, c'est un peu secret, ça attise la curiosité, quelque part ça attise un peu le feu.
Ça attise le feu, ça attise la rumeur aussi, c'est-à-dire ne sachant rien finalement, on continue d'alimenter le brouillard en racontant des choses qui sont souvent de pures inepties par rapport à la situation vécue par les gens à l'intérieur du groupe. Mais c'est une dynamique dedans-dehors que nous rencontrons à tout moment. On l'a même joué le jour de l'inauguration de Secret. Pour être parfaitement raccord avec nous, il fallait absolument être là à l'inauguration et on divulguait les clés de la soirée. Et il y a toute une partie des gens qui sont venus en cours de route qui se sont trouvés frustrés parce qu'ils étaient en dehors du cercle de ceux qui avaient les clés. Et donc, si vous voulez, notre soirée d'inauguration elle-même, elle a presque donné la tonalité du fonctionnement même de ça. On est dedans, on est dehors, en fonction d'un certain nombre d'efforts qu'on fait pour adhérer au groupe.
Dans les relations sociales, alors justement, vous le dites, hein, on est dans le secret ou on l'est pas, donc on peut, mais ça peut être dans le cadre d'une famille déjà, hein, simplement par exemple les secrets de famille, ça c'est quelque chose qui sont assez courants dans la société, qui peuvent être destructeurs d'ailleurs une fois que c'est révélé.
Oui, en fait, le secret fonctionne presque en cercle concentrique. Nous avons tous appris au début de notre existence à nous comporter face à tout ce qui pouvait être dit ou tout ce qui devait quand même être tu, malgré cette impression que, hein, on peut tout dire quand on est enfant. Et ben, peu à peu, on se rend compte que ce n'est pas le cas. On a l'impression que les adultes autour de nous sont parfaitement honnêtes et responsables. On se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc, peu à peu, on entre dans un système de nuances qui nous fait entrer dans une, si vous voulez, une stratégie de communication qu'on partage avec notre groupe. Mais après, ces niveaux-là, on les rencontre à d'autres endroits. On les rencontre quand on rencontre des camarades d'école, où à ce moment-là, il faut, par le secret, se préserver par rapport au monde contraignant des adultes. On les rencontre dans des groupes de pairs, les scouts, les clubs sportifs. Et puis ensuite, on va les rencontrer dans le monde professionnel, où à nouveau, une nouvelle catégorie de règles sont énoncées. Donc tout ça s'embrique. Hein. On a à la fois ces secrets du groupe, du noyau familial, comme vous dites, qui peuvent d'ailleurs émerger sur la scène publique quand ils sont tellement graves qu'ils sont révélés à travers ce qui pourrait être presque un roman policier, si vous voulez. Mais la plupart des secrets de famille sont des secrets légers, hein, qu'on transporte avec soi. Il y a tout ce qu'il y a autour de grandes thématiques sociales, notamment les abus divers que les enfants ont subis, qui ont donné lieu à des révélations tout à fait spectaculaires. Mais le secret de famille habituel, c'est rarement quelque chose de terriblement honteux. C'est une tache sur le veston.
Mais est-ce que ça peut être, dévastateur lorsqu'on l'apprend, parce qu'il peut y avoir du coup, on se dit, ah ben, on nous a menti pendant un certain temps. Est-ce que c'est un secret, c'est un mensonge? Parce qu'on ne dit pas quelque chose, donc on travestit peut-être un peu la réalité.
Ce n'est pas un mensonge, ça a un rapport avec le mensonge, ça a un rapport avec l'opacité, ça a un rapport avec la volonté de garder pour soi. Mais oui, les secrets de famille eux-mêmes, je dirais, sont négociés souvent en famille. Et puis ensuite, ils amènent avec eux leur lot de souffrances à l'intérieur du groupe, mais aussi, je dirais, leur volonté d'être explicité, c'est-à-dire l'arrivée vers le destinataire, en l'occurrence, c'est peut-être d'arriver à la clarification collective de problèmes qu'on a vécu autour de soi et qui, s'ils restaient cachés plus longtemps, deviendraient un véritable problème. Mais là, on entre un peu sur le terrain de la psychologie ou de la psychologie sociale et je voudrais pas trop m'y aventurer.
Nous sommes avec vous, Marc-Olivier Gonzette, jusqu'à 11h30 dans Tribu, pour parler du secret. On va vous retrouver après Camille qui, elle, dit tout dans son titre « Tout dit ».
J'ai tout dit, tout dit, j'ai terminé ma phrase, tout dit, j'ai tout dit, c'est gravé dans le marbre, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, sort, tout dit, tu veux que l'on se parle, tout dit, oh, ma sœur Hildegarde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, des oiseaux dans les arbres, tout dit, j'ai, tout dit, j'ai fui à la hussarde, tout dit, j'ai, tout dit, et les rats m'ont suivi, tout dit, eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sort, tout dit, tu as peur pour ma vie, tout dit, oh, ma sœur, il ne garde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, de la pluie dans les arbres, tout dit, j'ai, j'ai rompu le charme, tout dit, j'ai tout dit. Maintenant je vous regarde, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sort, tout dit, tu veux sécher mes larmes, tout dit, oh, ma sœur, il te garde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, du vent dans les arbres, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu donnes un jour ton cœur, tout dit, oh, ma sœur, prends garde, tout dit, ne, tout dit, pas, tout dit, où tu mourras d'ennui.
Tout dit, Camille, pas de secret pour elle. Magnifique chanson, comme ça, sans instrument, c'est superbe. Nous sommes précisément en train de parler du contraire de tout dit, c'est-à-dire du secret avec vous, Marc-Olivier Gonzette. Vous êtes le directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel pour nous parler du secret parce qu'une exposition est en cours encore jusqu'au 18 octobre à propos du secret. On a vu il y a plein de choses à dire sur le secret. On a vu plusieurs choses tout à l'heure avec vous, plusieurs éléments qui concernent le secret. Notamment j'ai envie de voir, parce que le secret, ça peut être très intime, on le disait, hein, ça peut être des secrets de famille, ça peut être donc tout proche de nous, ça peut être dans le couple, le secret, la vie sexuelle par exemple est une forme de secret qu'on ne divulgue pas à l'extérieur, voire même il y a des secrets autour de la vie sexuelle, les amants, tout ça, ça peut être vraiment très très proche, le secret.
Oui, alors ça continue de faire partie de ce rapport intime que chacun d'entre nous a avec cette notion de secret, puisque mais c'est des choses banales, je dirais, si vous voulez. C'est des secrets qui ne vont faire de tort à personne, qui ont plutôt tendance à huiler les rapports sociaux qu'à les handicaper, jusqu'au moment où, tout d'un coup, par cette règle qui veut que le secret arrive vers son destinataire, hein, eh bien, le secret se sait. Et c'est peut-être au moment où il est énoncé, soit par un aveu, soit par une découverte, qu'il pose des problèmes et il restructure en profondeur des relations sociales et personnelles.
Vous évoquez, vous, parce que c'est un peu ceux qui sont l'antithèse du secret, c'est les apôtres de la transparence. Alors, on a dit tout à l'heure, une société trop transparente serait terrible. Malgré tout, on est dans une société de transparence parce qu'on donne nos données, on dit beaucoup de choses de nous sans le vouloir aujourd'hui. C'est ça, les apôtres de la transparence. C'est une société qui... Voilà, on est dans cette société, il faut l'accepter. On est en train de tout donner de nous un petit peu, notamment grâce au monde numérique.
Alors, on a plusieurs secteurs, en fait, qui font une référence immédiate à cette question de la transparence, et c'est normal, puisque je vous disais, c'est en relation dialectique, hein, transparence et opacité. Et donc, nous avons par exemple, au cœur de Neuchâtel, et en pleine cour du château, le lieu du pouvoir, une stèle qui propose une phrase de Saint-Pierre, qui dit que grosso modo, tout ce qui était caché, tout ce qui était dit dans les caves sera crié sur les toits. Évidemment, c'est mieux dit et c'est plus long. Alors, si vous voulez, cet objet à cet endroit-là, il fait sens parce que c'est le lieu du pouvoir, donc c'est le lieu où il est normal que des choses se cachent, que tout ne se dise pas. Et en même temps, c'est un lieu qui est constamment sous observation, donc constamment sujet à des enquêtes, à des questions. Et donc, c'est un lieu qui doit, à un certain moment, assumer assez en face les choses qui lui sont reprochées. D'autant plus que les politiques passent, et donc qu'on peut revenir après coup sur cette question des affaires éventuellement. Mais ça fait partie, je dirais, peut-être d'une pratique normale de la profession de politique, qui a également sa partie secrète, parce que tout dire dans ce cas-là, ce serait complètement contre-productif. Alors, on a d'autres endroits où on oppose ce côté privé, ce côté public du secret. C'est une opposition entre une campagne d'affichage, qui a d'ailleurs été régulièrement arrachée par les Neuchâtelois qui passaient devant, une campagne d'affichage qui est une injonction à la transparence, avec notamment régularise tes impôts, signale tes employés au noir, participe à l'éclosion des wikis, leaks, etc. Et donc il fait référence à ce travail d'un certain nombre de personnes qui veulent rétablir une sorte de proportion plus équitable entre ce qui est décrypté de nos vies par les pouvoirs et ce que ces pouvoirs eux-mêmes sont d'accord de dénoncer. Donc, on pourrait dire qu'on est dans un moment historique où c'est plutôt cette injonction-là qui est donnée, alors que celle du secret serait un peu considérée comme négative. Mmh. Et là, on rentre dans une question morale importante, c'est faut-il vraiment accorder au secret la polarité moins et à la transparence la polarité plus? De toute évidence, non. Il ne faut pas moraliser ces questions. C'est dans leur rapport qui sont intéressants. Donc, le travail de la transparence est nécessaire, mais en face, alors nous avons développé en face de ces affiches une sorte d'immeuble, une maison de poupée, si vous voulez, où chaque pièce énonce à quel point nous tenons à nos secrets à la fois domestiques et sociaux. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'on est toujours en train de réclamer pour connaître les secrets des autres, notamment ceux de ceux qui nous gouvernent, mais on est très près de nos propres secrets et on est enclin à continuer d'essayer de les cacher. D'où une tension assez claire entre l'exigence que vous retrouvez chez les journalistes, qui sont des gens qui à la fois débusquent les secrets, c'est un peu leur gagne-pain, la base du métier, c'est aussi comme ça qu'ils intéressent le public, et puis en même temps, ils sont très proches de cette volonté du secret des sources, ils sont éthiquement inébranlables autour de ces questions, donc on sent bien qu'il n'y a pas un secret d'un côté et puis une transparence de l'autre, non, il y a toujours un jeu entre les deux.
Oui, on veut la transparence des autres et garder nos propres secrets, notre jardin secret à nous. Oui. Nous sommes un paradoxe, mais ça c'était connu d'avance.
Mais ça se rencontre partout, dans toutes les professions. J'ai pris l'exemple journaliste, puisque j'ai un journaliste face à moi.
Oui. On a les apôtres aujourd'hui de la transparence, ces grandes figures, Julian Assange, Edward Snowden, c'est devenu des héros, pour certains en tout cas, pas pour certains États, mais ça c'est ce que vous dites un petit peu, on est dans ce trend-là.
Oui, mais d'ailleurs c'est légitime parce que à la fois l'encryptage nécessaire de tous ces moyens informatiques dans lesquels on est en train de divulguer notre identité au tout venant et donc aux États et donc à ceux qui nous gouvernent, et puis cette manière que les États, et notamment les États-Unis, ont eu de s'emparer de nos vies pour en faire des moyens de pression. Et toute la discussion autour aussi des grands moyens de communication, autour de Microsoft, autour de Google, etc., sont des questions posées très légitimement.
des questions posées très légitimement. Il y aurait plein de choses encore évidemment à dire autour du secret. Un de nos collègues, Cyril Desprendes, a fait une série entière durant une série d'été, donc il y aurait plein de choses à dire. Mais ceux qui voudraient encore en découvrir, eh bien, des choses sur le secret, on rappelle que cette exposition au musée d'ethnographie de Neuchâtel sur le secret se poursuit encore un petit mois, un peu plus qu'un petit mois, puisque c'est jusqu'au 18 octobre. Puis après, une autre exposition qui, après, on peut d'ailleurs la découvrir dès aujourd'hui, c'est une exposition sur la mort. D'ailleurs, on va en parler dans Tribu, puisque nous recevrons Bernard Knodel, qui est le conservateur adjoint du musée, qui travaille avec vous sur la mort. Donc jusqu'au 18 octobre, le secret, on peut découvrir à Neuchâtel.
Absolument, et puis c'est pas la mort jusqu'à la fin de l'année.
Jusqu'à la fin de l'année sur la mort. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On devrait, voilà, oui, on me dit dans l'oreillette, comme on dit, que Jean-Marc Richard est avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le temps donc de prendre quelques nouvelles de la Journée nationale de solidarité pour les réfugiés. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Laurent Caspary, merci de votre accueil. Oui, effectivement, c'est une journée de solidarité. Tout à l'heure, nous avons passé le cap du million. Il y a des lignes qui se sont libérées. Alors, c'est très important de le préciser, parce qu'il y a des moments où on peut plus facilement téléphoner que d'autres. Il y a quelquefois un peu de saturation. La ligne 0800 87 07 07 0800 87 07 07, c'est la ligne bien sûr principale pour vos appels, et puis www.bonheur.ch aussi pour faire vos promesses de dons. Mais passer par les téléphonistes, c'est plutôt sympa, et vous pouvez nous faire un petit message, par exemple comme ce jeune homme de Buis qui a vendu des dessins pour la somme de 400 francs. Et puis on attend les premières communes. On attend le canton, on attend les cantons, on attend aussi les pouvoirs publics. On attend avec impatience aussi les entreprises qu'on pourra citer, mais oui, pourquoi pas. Et puis bien sûr que tous les petits dons, les plus petits comme les plus grands, sont les bienvenus au 0800 87 07 07, 0800 87 07 07. Vous savez Laurent, dans votre émission, régulièrement vous abordez des problèmes sociaux, et souvent les gens nous disent, ok, nous on est d'accord d'aider des personnes qui sont sur les routes, qui sont en train de fuir la guerre par millions. Et on voudrait aussi qu'on aide la Suisse. Alors je voudrais juste être très clair par rapport à cela. La chaîne du bonheur aide ceux qui sont dans la précarité, dans le besoin en Suisse, sans faire de bruit, sans faire de vagues, depuis de très nombreuses années, à raison de plusieurs millions par année, pour les plus défavorisés, pour les familles dans le besoin. Ça se fait, et c'est l'aide en Suisse pour la précarité. Voilà, il n'y a pas à la chaîne du bonheur des secteurs que nous n'abordons pas. 0800 87 07 07 0800 87 07 07. Merci beaucoup pour votre accueil, Laurent.
Mais merci à vous, Jean-Marc, et on vous retrouve tout au long de cette journée pour nous tenir au courant donc de l'évolution des dons. Tribu, c'est terminé dans quelques instants. Lady Coder, je vous souhaite la plus belle des journées.
Infotrafic RTS.
Et sur l'autoroute Fribourg-Vevey, un accident bloque la voie de droite et perturbe la circulation entre Rossens et l'aire de service de la Gruyère en direction de Vevey. Et en ville de Lausanne, des travaux provoquent un bouchon sur l'avenue de Provence en direction du centre-ville.